en lisant ces temps-ci
certains ouvrages nouveaux, nouvellement parus, sur les rapports du langage et de la pensée, j'ai été amené à me représentifier ce qu'après tout, je puis bien à chaque instant, pour moi-même, mettre en question, savoir la place et la nature du biais par ici, c'est d'attaquer quelque chose qui de toute façon ne saurait être sans ça. Qu'aurais-je à vous dire? Qu'une limite obligée, nécessaire de votre compréhension ceci ne présente aucune difficulté particulière dans son principe objectif. Tout progrès, science, portant autant et plus sur le remaniement phasique de ces concepts que sur l'extension de ces prises. Ce qui peut faire ici, je veux dire dans le champ psychanalytique, un obstacle qui mérite une réflexion particulière. Qui n'est pas soluble aussi aisément que le passage d'un système conceptuel à un autre, par exemple du système copernicien au système Einsteinien. Car après tout, on peut supposer que dans des esprits suffisamment développés, ça ne fait pas autant de difficultés. Des esprits suffisamment ouverts aux mathématiques, ça ne dure pas longtemps qu'il s'impose que les équations einsteiniennes se tiennent, incluent celles qui les ont précédées, les situent comme cas particuliers, donc les résolvent entièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir, comme l'expérience, l'histoire le prouve, un moment de résistance. Mais il est court. Dans toute la mesure où, comme analyste, je veux dire, dans toute la mesure de notre implication, plus, moins, c'est déjà d'y être un peu impliqué que de s'intéresser à l'analyse dans toute la mesure de notre implication dans la technique analytique. Nous devons rencontrer dans l'élaboration des concepts le même obstacle, désigné, reconnu, comme constituant. La limite de l'expérience analytique, c'est à savoir l'angoisse de castration. Tout se passe comme si ce qui me parvient à des distances diverses de ma voix et pas forcément toujours réponse à ce que je dis, mais certainement dans une certaine zone, en réponse, tout se passe comme si, à certains moments, se durcissait de certaines positions techniques. Strictement corrélative en cette matière ce que je puis appeler limitation de la compréhension tout se passe également comme si j'avais choisi pour surmonter ces limites une voie parfaitement définie au niveau de l'âge scolaire par une école pédagogique. Posant d'une certaine façon les problèmes du rapport de l'enseignement scolaire avec la maturation de la pensée de l'enfant. Tout se passe comme si j'adhérais et j'adhère en effet à regarder de près ce débat pédagogique à ce mode de procédure pédagogique. Qui est loin, croyez-le, vous pouvez le constater, il y en a parmi vous qui sont plus près que les autres, d'une nécessité à s'intéresser à ce procédé pédagogique. Vous verrez que les écoles sont loin de s'accorder sur le procédé que je vais maintenant articuler et définir. Pour une école, si vous voulez, on l'a, je voudrais, pour l'instant, à ma gauche, ça ne veut rien dire de plus, tout est commandé par une maturation autonome de l'intelligence, on ne peut que la suivre, je parle de la scolaire. autres. Il y a une faille, une béance. La première, désignons-la par exemple par les théories de Stern. Je ne l'ai pas dit tout de suite parce que je pense qu'une bonne part d'entre vous n'ont jamais ouvert les travaux de ce psychologue pourtant universellement reconnu. Pour l'autre, disons, c'est Piaget. Il y a une béance, une faille entre ce que la pensée enfantine est capable de former et ce qui peut lui être apporté par la voie scientifique. Il est clair que si vous y regardez bien près, c'est dans les deux cas réduire l'efficacité de l'enseignement comme tel à zéro. L'enseignement existe. Ce qui fait que des esprits nombreux dans l'ère scientifique, l'ère ailleurs, peuvent le méconnaître, c'est qu'effectivement, dans le champ scientifique, une fois qu'on y a accédé, ce qui est proprement de l'ordre de l'enseignement au sens, je vais préciser, peut être en effet tenu pour élidable. C'est à savoir que quand on a franchi une certaine étape de la compréhension mathématique, ben, une fois que c'est fait, on n'a plus à en rechercher les voies. On peut, si je puis dire, y accéder sans aucun mal, pour peu qu'on appartienne à la génération à laquelle on aura enseigné les choses. Sous cette forme, sous cette formalisation, par première intention. Des concepts extrêmement compliqués, ou plus exactement qui eussent paru dans une étape précédente, des mathématiques extrêmement compliquées, sont immédiatement accessibles à des esprits fort jeunes. On n'a besoin d'aucun intermédiaire. Il est certain qu'à l'âge scolaire, il n'en est point ainsi. Et que tout l'intérêt de la pédagogie scolaire tient à saisir, à constater ce point vif ou à devancer par des problèmes dépassant légèrement ce qu'on appelle les capacités mentales de l'enfant. Et en l'aidant, je dis en l'aidant seulement à avancer ces problèmes, on fait quelque chose qui a un effet, non pas seulement prématurant, effet de hâte sur la maturation mentale, mais un effet qui, dans certaines périodes, on peut appeler, et on les a appelés ainsi, sensible. Ceux qui en savent un peu sur ce sujet peuvent voir où je poursuis, car l'important est mon discours et non pas mes références. On peut obtenir de véritables effets de déchaînement, d'ouverture. Certaines activités appréhensives dans certains domaines, des effets de fécondité tout à fait spéciaux, c'est exactement ce qu'il me semble pouvoir être obtenu dans le domaine où nous nous avançons ensemble ici pour autant, en raison de la spécificité de son champ, et qu'il s'y agit toujours de quelque chose dont il conviendrait un jour que les pédagogues fassent leur repérage. Il y en a déjà des amorces dans les travaux de l'auteur, dont le témoignage est d'autant plus intéressant à retenir qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'à nous peuvent apporter leurs expériences. Le fait que tel pédagogue ait pu formuler qu'il n'y a de véritable accès au concept qu'à partir de l'âge de la puberté, j'entends des expérimentateurs qui ne connaissent, qui ne veulent reconnaître rien de l'analyse, c'est quelque chose qui mériterait que nous y ajoutions notre regard, que nous y courions notre nez, que nous saisissions. Au lieu dont je vous parle, il y a 1000 traces sensibles à proprement parler, en fonction d'un lien qui peut être fait concernant la maturation de l'objet petit a comme tel, c'est-à-dire tel que je le définis à cet âge de la puberté, qu'on pourrait concevoir, donner un tout autre repérage que celui qui est fait par ces auteurs de ce qu'ils appellent le moment limite où il y a véritablement fonctionnement du concept et non pas de cette sorte d'usage du langage qu'ils appellent à cette occasion non pas conceptuel, mais complexuel, par une sorte d'homonymie, de pure rencontre avec le terme dont nous nous servons, complexe. Cette position du petit a, au moment de son passage, par ce que je symbolise sous la formule du moins phi, voilà ce qui est un des buts de notre explication de cette année. Il n'est valorisable, assumable à vos oreilles il ne saurait être valablement transmis si ce n'est par quelque approche. Il ne saurait être ici que détour de ce qui constitue ce moment, caractérisé par la notation moins phi, et qui est et ne peut être que l'angoisse de castration. C'est parce que cette angoisse ne saurait d'aucune façon être présentifiée comme telle, mais seulement repérée par cette sorte de voix concentrique qui me fait, vous le voyez, osciller du stade oral à quelque chose que la dernière fois j'ai fait se supporter de l'évocation sous une forme séparée, matérialisée en un objet de la voix, ce chopin, je permettrai aujourd'hui de prendre pour le mettre un instant de côté, que nous pouvons mettre revenir au point central que j'évoque en parlant de la castration. Quel est véritablement ce rapport de l'angoisse à la castration? Il ne suffit pas que nous le sachions vécu comme tel dans telle phase dite terminale ou non terminale de l'analyse pour que nous sachions véritablement ce que c'est. Pour dire tout de suite les choses comme elles vont s'articuler au pas suivant, je dirais que la fonction du phallus comme imaginaire fonctionne à tous les niveaux, d'en haut, d'en bas, que j'ai définis. Caractérisé par une certaine relation du sujet au petit tas, le phallus fonctionne partout. Sauf là où on l'attend, dans une fonction médiatrice, nommément au stade phallique, et que c'est cette carence comme telle phallus présent, repérable souvent à notre grande surprise. Partout ailleurs, c'est cet évanouissement de la fonction phallique comme telle, à ce niveau où il est attendu pour fonctionner, qui est le principe de l'angoisse de Castrat. D'où la notation moins dénotant cette carence, si je puis dire, positive, et ceci pour n'avoir jamais été formulé comme tel sous cette forme, n'a pas laissé place non plus à ce qu'on en tire les conséquences. Pour vous rendre sensible la vérité de cette formule, je prendrai diverses fois, selon le mode que j'ai appelé tout à l'heure, celui de tourner autour. Et puisque la dernière fois, je vous ai rappelé la structure propre du champ visuel concernant ce que j'appelle à la fois la sustentation et l'occultation dans ce champ. De l'objet petit a, je ne peux faire moins que y revenir quand, d'une façon que nous savons être traumatique, c'est dans ce champ que se présente premier abord, avec la présence phallique. C'est à savoir ce qu'on appelle la scène primitive. Chacun sait que malgré qu'il y soit présent, visible, sous la forme d'un fonctionnement du pénis, ce qui frappe dans l'évocation, de la réalité, de la forme fantasmée, de la scène primitive, c'est toujours quelque ambiguïté concernant justement cette présence. Combien de fois peut-on dire que justement on ne le voit pas à sa place? Et même parfois que l'essentiel de l'effet traumatique de la scène, c'est justement les formes sous lesquelles il disparaît, il s'escamote. Mmh. Aussi bien n'aurais-je qu'à évoquer dans sa forme exemplaire le mode d'apparition. Ou en tout cas, pour notre propos, nous n'avons pas à nous tromper. L'angoisse, si la campagne nous signale assez que nous sommes bien dans la voie que nous cherchons, le mode d'apparition de cette scène primitive dans l'histoire de l'homme au loup, nous avons entendu dire quelque part qu'il y avait quelque chose d'obsessionnel, paraît-il, à ce que nous revenions ici. Je ne pense pas chaque fois que je suis dans votre présence, mais à ce que nous revenions à ces exemples originaux de la découverte freudienne. Ces exemples sont plus que des supports, plus même que des métaphores. Ils nous font toucher du doigt la substance même de ce à quoi nous avons affaire. Essentiel dans la révélation de ce qui apparaît à l'homme au loup par la béance, réfigurant en quelque sorte ce que ce dont j'ai fait une fonction, celle de la fenêtre ouverte. Ce qui apparaît dans son cadre, identifiable dans sa forme à la fonction du fantasme, de son mode le plus angoissant, il est manifeste. L'essentiel n'y est pas de savoir où est le phallus, il y est, si je puis dire, partout, identique. C'est ce que je pourrais appeler la catatonie de l'image. Cet arbre, les loups perchés, qui, retrouvez-y l'écho de ce que je vous ai articulé la dernière fois, regarde le sujet fixement. Il n'est nul besoin de chercher du côté de cette fourrure, cinq fois répétée dans la queue des cinq animaux. Ce dont il s'agit, qui, et là, je vous l'ai dit, dans la réflexion même que l'image supporte, d'une catatonie qui n'est point autre chose que celle même du sujet, de l'enfant médusé, fasciné par ce qu'il voit, paralysé par cette fascination. Au point que ce qui dans la scène le regarde, qui est en quelque sorte invisible, d'être partout, nous pouvons bien le concevoir comme une image qui ici n'est rien d'autre que la transposition de son état d'arrêt, de son propre corps ici, transformé dans cet arbre que nous dirions, pour faire écho à un titre célèbre, l'arbre couvert de loups. Qu'il s'agisse de quelque chose qui fasse écho à ce pôle vécu que nous avons défini comme celui de la jouissance, ceci me paraît ne pas faire question. Sorte de jouissance parente de ce qu'ailleurs Freud appelle horreur de la jouissance ignorée de l'homme au rat. Une jouissance dépassant tout repérage possible par le sujet. Et là, présentifié sous cette forme érigée, le sujet n'est plus qu'érection dans cette prise qui le fait phallus, l'arborie, le fige tout entier. Il y a quelque chose qui se passe et dont Freud nous témoigne que dans cette occasion ça n'a été que reconstruit, que tout est essentiel que ce soit au développement symptomatique des effets de ce sexe, est si essentiel que l'analyse qu'en fait Freud ne saurait même être un instant avancé si nous n'admettons pas cet élément. Et présentifiant en cette occasion ce que Freud a articulé plus tard, de la reconstruction comme telle, c'est la réponse. La première fois quasi première fois. La première fois, en tout cas, où Freud a fait état d'une façon articulée de cette fonction de l'apparition de l'objet excrémentiel dans un moment critique, observez, reportez-vous au texte, que sous mille formes, il l'articule dans une fonction auquel nous ne pouvons pas donner d'autre nom que celui que nous avons cru devoir articuler plus tard comme caractéristique du stade génital, à savoir en fonction d'oblativité. C'est un don, nous dit-il d'ailleurs, chacun sait que Freud a souligné dès l'abord le caractère de cadeau de toutes les occasions. Je vous permettrai bien d'appeler en passant, et sans autre commentaire, si vous vous souvenez de mes repérages, les occasions de passage à l'acte, où le petit enfant lâche intempestivement quelque chose de son contenu intestinal. Mais dans le texte de Le Gaulou, les choses vont même plus loin, donnant son véritable sens, celui que nous avons noyé sous une vague assomption moralisante à propos de l'oblativité. Freud parle à ce propos de sacrifice. Vous l'avouerez, étant donné que Freud avait la lecture, et que par exemple, nous savons qu'il avait lu par exemple Robertson Smith, que quand il parlait du sacrifice, il ne parlait pas de quelque chose en l'air, une espèce de vague analogie morale. Freud parle de sacrifice à propos de l'apparition de cet objet extrémentiel dans le champ. Ça doit tout de même bien vouloir dire quelque chose. C'est ici que nous reprendrons les choses au niveau, si vous le voulez, de l'acte normal, de l'acte à juste titre, ou non, qualifié de mur, celui au niveau duquel j'ai cru pouvoir, à mon avant-dernier séminaire, mon souvenir est bon, articulé l'orgasme comme étant l'équivalent de l'angoisse. Et se situant dans le champ intérieur au sujet, tandis que je laissais provisoirement la castration à cette seule marque, bien évidente qu'on ne saurait en détacher le signe de l'intervention de l'autre comme telle, cette caractéristique lui ayant été toujours et depuis le début affectée. C'est l'autre qui menace de castration. J'ai fait remarquer à ce propos qu'à assimiler, à faire s'équivaloir l'orgasme comme tel à l'angoisse, prenait une position qui rejoignait ce que j'avais dit précédemment de l'angoisse comme qui repère signal de la seule relation qui ne trompe pas. Que nous y pouvions trouver la raison y avoir dans l'orgasme de satisfaisant. C'est de quelque chose qui se passe dans la visée confirme que l'angoisse n'est pas sans objet, nous pouvons comprendre la fonction de l'orgasme et plus spécialement ce que j'ai appelé la satisfaction qui l'emporte. Je croyais pouvoir, à ce moment, n'en pas dire plus, et être compris. Il n'en reste pas moins que l'écho m'est parvenu, disons pour le moins de quelque perplexité, et dans les termes se sont échangés, si cet écho est juste, justement, notre deux personnes, que je crois avoir particulièrement bien formé, il n'en est que plus surprenant qu'ils aient pu s'interroger dans l'occasion sur ce que j'entendais par cette satisfaction. S'agit-il donc, s'entretenait-il, de la jouissance. Serait-ce revenir d'une certaine façon à cet absolu dérisoire que certains veulent mettre dans la fusion prétendue du génital. Et puis, puisqu'il s'agissait d'apercevoir la relation de ce point d'angoisse, mettez dans ce point toute l'ambiguïté que vous direz, d'un point où il n'y ait plus d'angoisse, si l'orgasme la recouvre. Avec le point de désir, pour autant qu'il se marque de l'absence de l'objet petit a sous la forme du moins phi, qu'en est-il, s'interrogeait-il, de cette relation chez la femme? Réponse, je n'ai point dit que la satisfaction de l'orgasme s'identifia avec ce que j'ai défini dans le séminaire sur l'éthique, sur le lieu de la jouissance, réponse, il paraît même ironique de le souligner, le peu de satisfaction, même si suffisant, qui est apporté par l'orgasme. Pourquoi serait-il le même et au même point que cet autre peu qui est offert dans la copulation, même réussie, à la femme. C'est ce qu'il convient d'articuler de la façon la plus précise. Il ne suffit pas de dire vaguement que la satisfaction de l'orgasme est comparable à ce que j'ai appelé ailleurs sur le plan oral l'écrasement de la demande sous la satisfaction du besoin. Mmh. À ce niveau oral, la distinction du besoin à la demande est aisée à soutenir. D'ailleurs, sans poser pour nous le problème d'où se situe la pulsion. Si par quelque artifice on peut, au niveau oral, équivoquer sur ce cas d'originel la fondation de la demande dans ce que nous appelons, nous, analystes, pulsion, c'est ce que nous n'avons en aucun cas, aucun droit de faire au niveau du génital. Et justement, là où semblerait que nous avons affaire à l'instinct le plus primitif, l'instinct sexuel, c'est là que nous ne pouvons moins qu'ailleurs manquer de nous référer à la structure de la pulsion comme étant supportée par la formule esparée, rapport de désir à la demande. Qu'est-ce qui est demandé? Génital et acquis. Qu'effectivement, l'expérience, tellement commune, fondamentale, qu'on finit devant l'évidence, comme toujours, par n'en plus remarquer le relief, qu'effectivement, la copulation interhumaine, dans ce qu'elle a, par rapport à l'existence individuelle. Il nous a fallu le détour d'une biologie déjà un peu avancée pour pouvoir remarquer la corrélation stricte de l'apparition de la bisexualité avec l'émergence de la fonction de la mort individuelle. Mais enfin, on l'avait pressenti depuis toujours. Quand cet acte se noue donc étroitement ce que nous devons appeler survie de l'espèce, conjoint à quelque chose qui ne peut manquer, si les mots ont un sens, d'intéresser ce que nous avons repéré, théoriquement au dernier terme comme pulsion de mort. Pourquoi nous refuser? Avoir ce qui est après tout immédiatement sensible dans des faits que nous connaissons tout à fait bien, qui sont signifiés dans les usages les plus courants de la langue. Nous demandons, je n'ai pas encore dit à qui, mais enfin, comme il faut bien demander toujours quelque chose à quelqu'un, il se trouve que c'est à notre partenaire, est-il bien sûr que ce soit à lui, c'est ce qu'il y a peut-être à voir dans un second temps, mais ce que nous demandons, c'est quoi? Demande qui a un certain rapport avec la mort. Ça ne va pas très loin. Ce que nous demandons, c'est la petite mort. Mais enfin, que nous la demandons. Que la pulsion est intimement mêlé à cette fonction de la demande que nous demandons à faire l'amour, si vous voulez, à faire l'amourir. C'est à mourir. Et même à mourir de rire. Ce n'est pas pour rien que je souligne ceci de l'amour participe à ce que j'appelle un sentiment comique. En tout cas, c'est bien là que doit résider ce qu'il y a de reposant dans l'après-orgasme, si ce qui est satisfait, c'est cette demande, eh bien, mon Dieu, c'est satisfait à bon compte. On s'en tire. L'avantage de cette conception est de faire apparaît. De rendre raison de ce qu'il en est dans l'apparition de l'angoisse. Dans un certain nombre de façons d'obtenir l'orgasme. Dans toute la mesure où l'orgasme se détache de ce champ de la demande à l'autre, c'est la première appréhension que Freud en a eue dans le coitus interruptus. L'angoisse apparaît, si je puis dire, dans cette marge de perte de signification, mais comme telle, elle continue à désigner ce qui est visé, d'un certain rapport à l'autre. Je ne suis pas en train de dire, justement, que l'angoisse de castration soit une angoisse de mort. C'est une angoisse qui se rapporte au champ où la mort se noue étroitement au renouvellement de la vie. C'est une angoisse qui, si nous la localisons en ce point, nous permet fort bien de comprendre qu'elle soit équivalemment interprétable comme ce pourquoi elle nous est donnée dans la dernière conception de Freud, comme le signal d'une menace au statut je défendu. Elle se rapporte à l'au-delà de ce je défendu, à ce point d'appel d'une jouissance qui dépasse nos limites, pour autant qu'ici, l'autre est à proprement parler, évoqué, dans ce registre de réel, qui est ce par quoi un certain type, une certaine forme de vie se transmet et se soutient. Appelez ça comme vous voudrez. Dieu ou génie de l'espèce, je pense avoir déjà suffisamment impliqué dans mes discours que ceci ne nous porte vers nulle hauteur métaphysique. Il s'agit là d'un réel. De ce quelque chose qui maintient ce que Freud a articulé au niveau de son principe de nirvana, comme étant cette propriété de la vie, de devoir, pour arriver à la mort, repasser par des pans qui reproduisent celles qui ont donné à la forme individuelle l'occasion d'apparaître par la conjonction de deux cellules sexuelles. Qu'est-ce à dire, qu'est-ce à dire concernant ce qui se passe au niveau de l'objet? Qu'est-ce à dire si ce n'est qu'en somme ce résultat que j'ai appelé résultat à si bon compte n'est réalisé de façon si satisfaisante au cours d'un certain cycle automatique à définir, qu'en raison justement du fait que l'organe n'est jamais susceptible de tenir très loin sur la voie de l'appel de la jouissance. Par rapport à cette fin de la jouissance. De l'atteinte de cet appel de l'autre dans son terme qui serait tragique. L'organe embocepteur peut être dit céder toujours prématurément au moment, si je puis dire, où il pourrait être l'objet sacrificiel, eh bien, disons que dans le cas ordinaire, il y a longtemps qu'il a disparu de la scène. Il n'est plus qu'un petit chiffon. il n'est plus là que comme un témoignage, un souvenir pour la partenaire de tendresse. Dans le complexe de castration, c'est de cela qu'il s'agit. Autrement dit, ça ne devient un drame que pour autant qu'est soulevé, poussé dans un certain sens, celui qui fait toute confiance à la consommation génitale, la mise en question du désir. Si nous lâchons cet idéal de l'accomplissement génital, nous apercevant de ce qu'il a de structurellement, d'heureusement leurre, il n'y a aucune raison que l'angoisse liée à la castration ne nous apparaisse pas dans une corrélation beaucoup plus souple avec son objet symbolique et dans une ouverture donc toute différente avec les objets d'un autre niveau comme ceci et d'ailleurs impliqué toujours, par les prémices de la théorie freudienne, mettant le désir dans un tout autre rapport que purement et simplement naturel, au partenaire naturel, quant à sa structuration. Je voudrais, pour mieux faire sentir ce dont il s'agit, rappeler tout de même ce qu'il en est. De rapport, si l'on peut dire, d'abord sauvage, entre l'homme et la femme. Après tout, une femme qui ne sait pas à qui elle a affaire, c'est bien conformément à ce que je vous ai avancé du rapport de l'angoisse avec le désir de l'autre, qu'elle n'est pas devant l'homme sans une certaine inquiétude sur jusqu'où va pouvoir le mener ce chemin du désir. Quand l'homme, mon Dieu, fait l'amour comme tout le monde et qu'il est désarmé, si la femme, ce qui, comme vous le savez, est fort concevable, n'en a pas tiré de profit sensible, il y a en tout cas ceci qu'elle a gagné, c'est qu'elle est sur les intentions de son partenaire, désormais, tout à fait tranquille. Dans ce même chapitre du Westland de T.S. Eliot auquel je me suis référé, un certain jour, que j'ai cru devoir confronter avec notre expérience, la vieille théorie de la supériorité de la femme sur le plan de la jouissance, celui que T.S. Eliot fait parler Tirésias, nous trouvons ces vers dont l'ironie m'a toujours paru devoir avoir un jour sa place ici dans notre discours. Quand le jeune gandin carbonculaire, petit gratte-papier d'agence immobilière, a fini avec la dactylo, dont on nous dépeint tout au long, l'entourage a fini sa petite affaire. T.S. Eliot s'exprime ainsi. When lovely woman stoops to folly and paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone. Ce qui veut dire, when lovely woman stoops to folly, ça ne se traduit pas. C'est une chanson du vicaire de Wakefield. Quand une jolie femme s'abandonne à la folie, stoops n'est même pas s'abandonne, s'abaisse à la folie. Pour enfin se trouver seule, elle arpente la chambre. Ses cheveux. Une main automatique. Elle change de piste. Ceci pour la réponse à la question que se posaient entre mes élèves sur ce qu'il en est dans la question. Du désir de la femme. Le désir de la femme est commandé par la question à elle aussi de sa jouissance. Que de la jouissance. Elle soit non seulement beaucoup plus près que l'homme, mais doublement commentée. C'est ce que la théorie analytique nous dit depuis toujours. Que le lieu de cette jouissance ne soit lié pour nous au caractère énigmatique, insituable de son orgasme, c'est ce que nos analyses ont pu c'est assez loin pour que nous puissions dire que ce lieu est d'un point assez archaïque pour être plus ancien que le cloisonnement présent du cloître. Ce qui a été, dans certaines perspectives analytiques, par tel analyste et du sexe féminin, parfaitement repéré.
que le désir, qui n'est point la jouissance, soit chez elle naturellement, là où il doit être selon la nature. C'est-à-dire, Tuber, c'est ce que le désir de celle qu'on appelle hystérique désigne parfaitement. Le fait que nous devions classer ces sujets comme hystériques ne change rien à ceci, que le désir ainsi situé est dans le vrai organique. C'est parce que l'homme ne portera jamais jusque-là la pointe de son désir qu'on peut dire que la jouissance de l'homme et de la femme ne se conjoignent pas organiquement. C'est bien dans la mesure de l'échec du désir de l'homme que la femme est conduite, si je puis dire, normalement à l'idée d'avoir l'organe de l'homme, pour autant qu'il serait un véritable ambocepteur, et c'est cela qui s'appelle le phallus. C'est parce que le phallus ne réalise pas, si ce n'est dans son évanescence, la rencontre des désirs, qu'il devient le lieu commun de l'angoisse. Ce que la femme nous demande à nous, analystes, à la fin d'une analyse menée selon Freud, c'est un pénis, sans doute pénis naïve, mais pour faire mieux que l'homme. Il y a quelque chose. Il y a bien des choses. Il y a mille choses qui confirment tout cela. Sans l'analyse, qu'est-ce qu'il y a pour la femme comme façon de surmonter le pénis naïde? Si nous le supposons, toujours implicite. Mais nous le connaissons très bien. C'est le mode le plus ordinaire de la séduction entre sexes. C'est d'offrir au désir de l'homme l'objet dont il s'agit de la revendication phallique. L'objet non détumescent à soutenir son désir. c'est de faire de ces attributs féminins les signes de la toute-puissance de l'homme. Et c'est ce que je vous prie de vous référer à mes séminaires anciens. C'est ce que j'ai cru déjà devoir valoriser en soulignant, après John Rivière, la fonction propre de ce qu'elle appelle la mascarade féminine. Simplement, elle doit y faire bon marché de sa jouissance. Dans la mesure où nous la laissons en quelque sorte sur ce chemin, c'est là que nous signons l'arrêt du renouvellement de cette revendication phallique. Qui devient, je ne dirais pas le dédommagement, mais comme l'otage de ce qu'on lui demande en somme, comme prise en charge de l'échec de l'autre. Telles sont les voies où se présente à considérer le plan génital, la réalisation génitale comme un terme, ce que nous pourrions appeler les impasses du désir, s'il n'y avait l'ouverture de l'angoisse. Nous verrons. Repartant du point où aujourd'hui je vous ai conduit, comment toute l'expérience analytique nous montre que c'est dans la mesure où il est appelé comme objet de propitiation dans une conjonction à l'impasse, que le phallus s'avérant manqué constitue la castration elle-même comme un point impossible à contourner du rapport du sujet à l'autre, mais comme un point quant à sa fonction d'angoisse résolue.